Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal grâce à Mzati Masanzi. Le gouvernement congolais presse pour un déblocage rapide de la paix des enseignants. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui l'a fait savoir ce week-end au cours d'une réunion avec sa collègue de l'éducation nationale, des syndicalistes et agents de la paix. Au Kassai oriental, la rougeole progresse avec plus de 450 cas déjà recensés dans 19 zones de santé de la province. Le médecin chargé de la maladie à la division provinciale de la santé demande aux parents d'amener les enfants qui manifestent la fièvre au centre de santé le plus proche. L'invité du journal, Myriam Ingessé, secrétaire nationale en charge de la communication du mouvement du peuple pour le Zaïre. Elle s'exprime sur la décision du président de la République instituant l'ordre national du léopard. Mesdames et messieurs, bonjour. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, donne des instructions fermes pour la paix des enseignants dans le bref délai. Jean-Pierre Liaou l'a dit samedi au cours d'une réunion avec sa collègue de l'éducation nationale, des syndicalistes et opérateurs de la paix. Une décision saluée par les syndicats des enseignants qui appellent à la reprise des cours. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À l'issue de cette rencontre de plus de 3 heures, les acteurs étatiques et non étatiques ont convenu que les opérateurs des pays remplissent leurs devoirs en appuyant non seulement les arriérés des salaires, mais également les primes des enseignants. Ils ont aussi décidé que la question des frais de convoyage et bancaires soit réglée entre opérateurs des pays et gouvernement lors d'une réunion spécifique prévue dans les prochains jours. L'ordonnateur délégué du gouvernement assure que toute l'enveloppe salariale du dernier trimestre 2025 a été décaissée. Il réitère ainsi la volonté du gouvernement congolais de délocaliser certains effectifs d'agents et fonctionnaires de l'État afin de faciliter l'opération des pays. Bienvenue Matenda Kibangala.
Avec ces opérateurs, on pourra penser à ce qu'on appelle la délocalisation des effectifs pour ceux-là qui sont trop proches des enseignants pour que la paix se passe normalement.
Pour sa part, le président et porte-parole de l'intersyndicale du secteur de l'éducation nationale a salué la volonté du gouvernement de trouver des solutions idoines à cette question des pays. Il encourage cependant les enseignants à reprendre le chemin de l'école en attendant la poursuite des négociations pour ne pas pénaliser les enfants.
C'est 6 janvier que les enseignants aillent dans des écoles pour reprendre les cours et ils seront payés. Nous sommes là pour eux.
Sur les 18 opérateurs des pays qui collaborent avec le gouvernement, celles Afriland Bank et IFOD connaissent ces dernières années des difficultés de remplir leurs obligations.
Au chapitre de la diplomatie, vous le savez certainement, la République démocratique du Congo a officiellement entamé vendredi 2 janvier son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour la ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas une récompense mais plutôt une mission. Thérèse Kayikwamba-Wagner l'a dit le même vendredi à travers un communiqué mais aussi une vidéo publiée sur X et déclare, je cite, la RDC siégera avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé de multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Fin des citations. On écoute Thérèse Kayikwamba-Wagner dans ses propos recueillis par Alain Irung Mouchinge.
Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elle se tourne vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions.
Pendant que la RDC assume désormais des nouvelles responsabilités au niveau international, l'actualité judiciaire retient l'attention à l'intérieur du pays, cette fois-ci à Kisangani, où la Cour de cassation sollicite de l'Assemblée provinciale de la Tchopo l'autorisation des poursuites contre le gouverneur des provinces Paulin Ndongolia. Ces derniers avaient été mis en accusation en novembre dernier par l'Assemblée provinciale pour détournement présumé des fonds publics. En réaction, le bureau de l'organe délibérant provincial promet d'examiner cette requête conformément à son règlement intérieur. C'est l'une des résolutions prises lors de la réunion tenue samedi par les membres du bureau. On écoute Paul Lokessa, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, dans cet extrait choisi par Jacques Moukonkolé.
Le bureau a exprimé ses vifs regrets sur le fait que l'Assemblée provinciale, en tant que partie prenante au procès, n'ait été informée de l'extrait au rôle de cette affaire qu'à la sortie de l'arrêt réhabilitant le gouverneur Dechu, alors que la partie adverse semblait avoir été saisie régulièrement. De l'analyse du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation au fait d'obtenir l'autorisation d'instruction de M. Ndongolia Lebabonga, le bureau a d'entre eux déjà constaté une erreur de forme dans le corps du réquisitoire, où il fait mention des 10 députés qui ont voté pour la déchéance de M. Paulin Ndongolia Lebabonga en lien des 18. Une erreur qui n'attache en rien le fond du réquisitoire qui parle des faits de détournement. Le bureau dit se conformer au règlement intérieur. Cela passera par l'audition de M. le procureur général près la Cour de cassation où sont délégués eux de M. Ndongolia Lebabonga Paulin face aux griefs soulevés dans les 10 réquisitoires, notamment les soupçons de détournement. Cette procédure vise à éclairer la religion des membres du bureau si l'opportunité d'autoriser ou non l'ouverture d'une instruction judiciaire à la compte du concerné.
Au cours de cette réunion, plusieurs autres points ont été abordés, notamment l'absence injustifiée de plusieurs députés lors des plénières de la session de septembre 2025, ainsi que la récente réhabilitation du gouverneur par la Cour constitutionnelle. Toujours sur le terrain de la justice, mais sous l'angle des droits humains, direction l'Ituri pour parler de la situation des mineurs détenus qui suscitent des vives inquiétudes. Le Conseil provincial de la jeunesse dénonce les conditions de détention des enfants en conflit avec la loi à la prison centrale de Bounia. C'est après une visite effectuée samedi dans cet établissement pénitentiaire. Cette structure de la jeunesse évoque notamment des difficultés de prise en charge médicale et alimentaire, ainsi que des retards importants dans le traitement judiciaire de leurs dossiers. Le point avec Jean-Claude Loki Dillet.
Selon le Conseil provincial de la jeunesse, des mineurs sont détenus depuis 9 mois, 1 an, voire jusqu'à 2 ans, sans avoir été présentés devant leur juge naturel. Les visiteurs ont également déploré l'insuffisance des ratios alimentaires. D'après leur témoignage, il arrive que les enfants ne reçoivent que de la bouillie au lieu d'un repas complet. La prise en charge médicale constitue également une autre source d'inquiétude, affirme la structure qui évoque des difficultés d'accès aux soins pour ces enfants privés de liberté. De son côté, le responsable de la prison centrale de Bounia reconnaît certaines contraintes, mais affirme que l'administration pénitentiaire fait de son mieux pour assurer l'encadrement des mineurs détenus. Camille Zonzi.
S'il faut faire les statistiques par rapport à l'hospitalisation, et en aucune fois, depuis une année, on a transféré les malades et les mineurs à l'hôpital général. Les problèmes d'alimentation, je crois, nous avons connu une période d'une année sans que l'État congolais envoie la subvention. Il y aura que l'intervention ponctuelle du gouvernement de la province. Compte tenu, on n'avait pas de stock alimentaire adéquat, on faisait un peu l'alternance des repas. Aujourd'hui, on peut manger et demain, on fait la bouillie. Du côté judiciaire, c'est le problème du juge. Il y a un seul juge de tribunal pour enfants avec 50 enfants qu'on doit juger.
Pour l'instant, la prison centrale de Bounia héberge 48 enfants en conflit avec la loi, selon l'administration pénitentiaire. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Autre réalité humanitaire alarmante dans la province du Tanganyika, avec les déplacés de guerre installés sur les sites de Katanika à Kalemi. Venus du nord et du sud Kivu, ces déplacés vivent dans des conditions précaires dans ces sites qui accueillent plus de 2000 ménages. Pas d'accès aux soins médicaux et à d'autres besoins de première nécessité. Dans une déclaration faite vendredi, la présidente de ces sites lance un appel à l'aide. Explication, Paul Emunanga.
D'après la présidente du site de Katanika, il n'y a aucune structure médicale ni de pharmacie sur les sites. Ces déplacés, estimés à plus de 11 000 personnes, sont confrontés aux mauvaises conditions de vie et de logement, surtout pendant cette période pluvieuse, ainsi qu'aux problèmes d'eau et de nourriture. Elle revient sur les conditions de vie difficiles sur les sites. Actuellement, si une personne tombe malade, elle doit se débrouiller. Si elle se rend à l'hôpital Kifungo, par exemple, pour des soins, elle va obtenir une fin de non-recevoir. Il faut sortir son argent pour se faire soigner. J'ai cet enfant. Sur les sites, il n'y a ni pharmacie ni hôpital. Nous n'avons pas d'aide émanant d'un service quelconque. La malaria est très répandue. entendu parmi les déplacés. Nous n'avons pas où dormir. Nous manquons de moustiquaires. S'il y a quelqu'un de bonne volonté qui peut nous venir en aide. Les déplacés fuyant la guerre dans les Kivu ont commencé à s'installer sur le site depuis février dernier. La présidente indique qu'une organisation humanitaire leur est venue en aide avec des bâches et du petit cash. Mais cela est insuffisant. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï-Oriental, 61 nouveaux cas de rougeole notifiés à la dernière semaine du mois de décembre, soit un cumul de 456 cas déclarés depuis le 15 décembre. En 4 semaines, la province a enregistré 259 cas. La maladie touche toutes les 19 zones de santé de la province. Les victimes, ce sont les enfants de 0 à 59 mois. Aucun décès n'est signalé jusqu'à ces jours. D'après le médecin chargé de la maladie à la division provinciale de la santé, les malades sont pris en charge en attendant la déclaration de cette épidémie. Docteur Jean-Pierre Soumba demande aux parents d'amener les enfants qui manifestent la fièvre au centre de santé le plus proche. On l'écoute, joint par Esther Dalafina.
Il y a des cas de rougeole au niveau de la province. On dirait même que nous sommes déjà en épidémie, mais nous attendons que l'épidémie soit déclarée par l'autorité compétente, qui est le gouverneur de la province. Il y en a qui ont été déjà confirmés au laboratoire au niveau national. Nous sommes déjà avec un grand nombre de cas, au-delà des limites qu'il faut. Donc pour la dernière semaine de l'année 2025, c'est la 52e semaine, nous sommes allés jusqu'à 61 cas de rougeole. C'est énorme. Et nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions riposter à cette épidémie. La rougeole apparaît presque de manière cyclique au niveau de la province. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Il faut noter que lorsque nous faisons couverture vaccinale au niveau de la province, tous les enfants ne se font pas vacciner. Il y a toujours des enfants qui restent par-ci, par-là, et ces enfants-là peuvent présenter la maladie. Mais il y a les enfants pour lesquels les propres parents refusent qu'on puisse les vacciner. Les caches, ils ne veulent pas. Disons qu'actuellement, la maladie est prise en charge au niveau des différentes sécure où apparaissent ces enfants. Notre plan de riposte est déjà prêt, mais dans l'entretemps, au niveau des différentes zones de santé, il y a de petites campagnes parcellaires à des endroits pour éviter que la propagation ne soit fulgurante au niveau de la province.
Pendant ce temps, le choléra est rapporté dans la zone de santé de la Ruzizi, territoire d'Ouvira au Sud-Kivu. Le bilan actuel fait état de 182 cas avec 4 décès dans 3 aires de santé, dont Ndunda, Kigurwe et Rusabagi. Et c'est l'aire de santé de Ndunda qui notifie de nombreux cas. C'est ce que nous dit Jean Kassami.
L'autorité sanitaire de la plaine de Ruzizi fait mention des 144 cas signalés à Ndunda, 28 cas à Kigurwe et 10 cas à Rusabagi. L'aire de santé de Rusabagi enregistre jusqu'à ce jour 3 cas de décès. D'autres zones telles que Nazareno, Sangueta et Sangue-Sepak sont aussi affectées. L'infirmier titulaire de la zone de santé de Ruzizi reconnaît qu'ils sont limités en termes d'intrants pour combattre cette maladie qui sévit dans leur secteur. Ainsi, il redoute qu'elle ne se répande sur l'ensemble de la zone de santé de Ruzizi ainsi que dans d'autres zones sœurs de la périphérie. La division provinciale de la santé au Sud Kivu ne s'est pas encore prononcée au sujet de cette maladie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle, au terme d'une ordonnance présidentielle lue le mercredi 31 décembre 2025 à la télévision publique, la République démocratique du Congo institue un nouvel ordre national dénommé « Ordre national du léopard ». Par cette ordonnance, le président Félix Tshisekedi promulgue la loi portant création de cet ordre adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais qui peut être admis à cet ordre et à quelles conditions? La réponse dans ce condensé proposé par Alain Rung-Mushinj qui a lu cette loi.
Selon le document officiel, l'Ordre national du Léopard est destiné à récompenser les services éminents rendus à la nation. Les grades sont conférés par ordonnance du président de la République après avis de la chancellerie des ordres nationaux, principalement aux citoyens congolais. À titre exceptionnel, ils peuvent également être attribués à des étrangers. Pour être admis, il faut avoir exercé pendant au moins 20 ans des fonctions civiles ou militaires assorties des mérites reconnus. Toutefois, le président de la République peut, par dérogation, admettre toute personne s'étant distinguée par un service extraordinaire rendu à la nation, un acte de dévouement exceptionnel ou une action d'éclat. Dans tous les cas, le grade d'admission est celui de chancelier. La loi prévoit également la réhabilitation des personnalités admises ou promues par l'ordonnance loi numéro 66 1966/329 du 24 mai 1966, prise par le président Mobutu Sese Seko qui avait institué le premier ordre national du léopard. Par ailleurs, les personnes déjà admises dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba conservent leur grade équivalent dans le cadre de la nouvelle loi.
Actualité internationale.
La Cour suprême de Guinée a confirmé ce dimanche soir la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre avec 86,72% des suffrages. Le général Doumbouya est élu dès le premier tour pour un mandat de 7 ans à l'issue d'un scrutin largement boycotté par les principaux partis d'opposition et dont les ténors de l'opposition en ont été écartés. Et puis, Ciudad de la Paz est officiellement devenue la nouvelle capitale de la Guinée équatoriale à la suite de la publication d'un décret présidentiel samedi 3 janvier. Selon les autorités, l'abandon de la capitale historique située sur une île doit permettre de désengorger Malabo grâce à un rééquilibrage du développement du territoire national et à une meilleure répartition des services publics.
L'invité.
Le mouvement du peuple pour le Zaïre, MPZ, salue l'initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de restaurer l'ordre national du léopard. La secrétaire nationale en charge de la communication de ces mouvements citoyens, Myriam Ingessé, est d'avis que cet acte du président de la République s'inscrit dans la sacralisation du pouvoir étatique et marque les débuts de la renaissance du Grand Congo. Elle précise également que le rétablissement de l'ordre national du léopard tourne une page sombre de l'histoire du pays, ouverte à l'avènement de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDEL au pouvoir. Myriam Ingessé s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, Madame Myriam Ingessé.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a signé il y a quelques jours l'ordonnance créant l'Ordre National du Léopard en RDC. Quelle analyse faites-vous de cette initiative?
Merci beaucoup pour la question posée. Je dirais que nos analyses au niveau du mouvement du peuple pour les Zaïre sont simples, Monsieur le journaliste. C'est depuis longtemps que notre mouvement citoyen cherche à attirer l'attention du chef de l'État sur le bien fondé de retourner à une tradition historique sacrée de notre pays, l'Ordre National du Léopard institué par les Maréchal Mobutu, vous savez, en 1966, avait été décerné jusqu'en 1997. En le rétablissant, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, réinscrit la distinction dans la continuité de l'histoire institutionnelle de notre pays. Et symboliquement, on peut dire, cela montre la volonté de reconnaître qu'un État peut traverser des mutations, comme le cas de notre pays, mais conserve des mémoires et des repères qu'il peut réactiver en tout moment. Pour les mouvements du peuple pour les Zaïre, les recours à l'Ordre national du Léopard est une bonne manière de mettre à jour la sacralisation du pouvoir étatique. Et cela marque pour le MPES les débuts de la Renaissance, tournant ainsi une page sombre de l'histoire de notre pays. L'AFDEL a voulu effacer, nous devons se le dire, monsieur le journaliste, les 32 ans d'histoire du pouvoir de Mobutu qui incarnait la paix, l'unité et la tranquillité.
Pourquoi dites-vous que cet acte du chef de l'État s'inscrit pleinement dans la sacralisation du pouvoir étatique?
Au début de la création du mouvement du peuple pour les Zaïre, notre mouvement citoyen, le 30 juin 2023, les citoyennes et citoyens associés aux forces sociales, aux personnalités civiles, tous des nationalités congolaises bien entendu, étaient conscients des menaces de la disparition totale de nos valeurs positives, morales, civiques et politique acquise avant et pendant la Deuxième République. C'est dans ce contexte que le MPES avait fait foi à la possibilité de constituer un État-nation dans notre pays sur base de nos valeurs authentiques. Aujourd'hui, l'acte posé par les chefs de l'État n'est qu'une nécessité de sauvegarder les acquis hérités des pères de l'indépendance et de la gouvernance de la République du Zaïre. L'initiative du chef de l'État de restaurer l'ordre national de Léopard peut être interprétée comme un acte symbolique visant à renforcer la sacralisation du pouvoir étatique. En rétablissant cet ordre, le chef de l'État réaffirme la centralité et la grandeur de l'institution étatique. L'ordre de Léopard, historiquement, était un marqueur fort de la puissance et de la dignité nationale. Sa restauration peut être perçue aujourd'hui comme une volonté de recentrer l'État dans une tradition de respect et de sacralité.
Dans cet élan, quelle autre demande que vous pouvez faire en vue de pousser le chef de l'État à restaurer d'autres acquis de l'époque Zaïre?
Très très bonne question, monsieur le journaliste, merci. Nous avons une demande expresse à faire au chef de l'État. L'emblème de Léopard seul ne suffit pas. Il doit être complété par les drapeaux du Zaïre et l'hymne national, la Zaïroise, pour former la triade symbolique qui redonnera au pays son trône de dignité, sa pleine souveraineté et relancer sa marche vers le développement longtemps entravé par des guerres de prédation. C'est ainsi que le MPES exhorte les chefs de l'État à signer une nouvelle ordonnance pour adopter les drapeaux national du Zaïre, l'hymne national, la Zaïroise, et rebaptiser le pays, les Zaïres du Léopard. La force du Léopard s'exprime pleinement dans les noms Zaïres. Les noms Congo, par contre, affaiblit cette puissance symbolique et a constitué un fardeau pour la République, remettant en cause les 32 années de paix retrouvées et vécues après les déchirements post-indépendance.
Quelles sont les raisons qui vous poussent au retour à l'ancien drapeau et l'hymne national de l'époque Zaïre?
Ce souhait repose sur plusieurs considérations. D'abord, les symboles incarnaient une forte identité nationale et culturelle, marquée par le patriotisme et l'authenticité qui visaient à valoriser nos racines. Ensuite, ils rappelaient une période où la souveraineté et la grandeur du pays fortement mises en avant, ce qui suscite une certaine nostalgie chez plusieurs compatriotes qui souhaitent renouer avec ces valeurs pour leurs impacts positifs acquis au temps marqué de l'histoire glorieuse de notre pays.
Madame Myriam Ingessé, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Notre invité est interrogé par Blaise Ndongala Mayanda. Ainsi prend fin ce journal, mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa et coordonné par Jude Mister Bilanda sous la supervision de Jean Gando. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de la matinale avec Jean-Marc Matoaki, mon félélé Dijanon.